Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 21h à Dakar et en temps universel, 22h à Bondy en France. Et le journal est présenté par Martin Guez dans le studio. Hein, il y a beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'ambiance tout à l'heure, mais tout le monde se tait là.
Mais j'entends ça. Bonsoir Claudie, vous êtes toujours à l'heure, vous, contrairement à vos invités.
J'ai compris.
Bon, je vous laisse avec vos invités, votre Facebook Live, si j'ai bien compris.
Exactement, ça
excellente
continue.
Excellente soirée à vous Claudie Serré. On se retrouve demain, évidemment, pour Color Tropical, mais pour l'heure, place au journal sur RFI. Et à la une. La vie reprend au Liban, premier jour de cessez-le-feu, après plus d'un an de conflit et plus de 2 mois de guerre totale entre Israël et le Hezbollah. Le mouvement libanais qui célèbre aujourd'hui l'arrêt des combats comme une victoire sur l'État hébreu. Victoire diplomatique aussi pour les États-Unis et pour la France dans ce dossier. À Strasbourg, les eurodéputés valident la commission 2.0 d'Ursula von der Leyen. La dirigeante allemande rempile pour 5 ans à la tête de l'institution, entourée de 26 commissaires, malgré un vote bien plus serré qu'attendu, vous l'entendrez. Au procès de Mazan, les réquisitoires sont terminés, place aux plaidoiries. L'avocate de Dominique Pellicot, le principal accusé, était à la barre aujourd'hui. Enfin, nous irons à Busan, au sommet de l'ONU sur le plastique, à la rencontre de la Greta Thunberg indonésienne, avant de passer la main à Annie Gasnier pour Radio Foot International. Ce sera dans 10 minutes. Après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, des dizaines de milliers de Libanais rentrent chez eux. Près d'un million d'entre eux ont dû fuir les combats et retrouvent leur ville et leur village dévastés par 14 mois de conflit, dont 2 mois de guerre totale qui ont fait 3800 morts côté Libanais depuis le 23 septembre dernier. Un cessez-le-feu, je vous le disais, célébré ce soir comme une victoire sur Israël de la part du Hezbollah. Les avions israéliens ont aujourd'hui disparu du ciel libanais. Aucun incident n'est à enregistrer ce mercredi, un premier jour de répit au Liban que nous raconte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife.
C'est une grande marche du retour, entamée dès la levée du jour, quelques petites heures seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Des dizaines de milliers de familles ont pris le chemin du sud du Liban, de la plaine de la Beka et de la banlieue sud de Beyrouth, faisant fi des mises en garde d'Israël et des conseils de l'armée libanaise d'attendre le retrait israélien. Mais les déplacés n'ont voulu rien entendre ni rien attendre. Ils ont été encouragés par le président du Parlement, Nabih Berri, artisan de l'accord du cessez-le-feu, qui les a poussés à rentrer la tête haute sur leur terre et dans leur maison. Des embouteillages monstres se sont formés sur l'autoroute côtière menant au Liban Sud, sur la route allant vers la Beka et dans les ruelles reliant Beyrouth à sa banlieue sud. Les occupants des véhicules faisaient lever de la victoire et brandissaient des portraits du chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre par Israël. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les rues désertées pendant 2 mois ont retrouvé leur animation d'antan au milieu d'énormes destructions. Beaucoup de familles ont retrouvé des maisons détruites, des commerces dévastés, mais l'ambiance était joyeuse malgré les pertes et les souffrances endurées. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Cet accord doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu trop longtemps attendu à Gaza, estime aujourd'hui le président français Emmanuel Macron. Paris et Washington qui ont activement œuvré à la mise en place de l'arrêt des combats au Liban. Un vrai succès pour la diplomatie française, estime Hassni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Il y avait une divergence entre Washington et Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, en raison des dernières positions surtout de la France, mais surtout parce que il ne voulait pas que la médiation ou la gestion du mécanisme d'application de l'accord de cessez-le-feu soit confiée à d'autres États, hormis les États-Unis, engageant bien sûr sur une relation privilégiée avec Washington, particulièrement dans la prévision de l'arrivée de président Trump. Mais il se trouve que tous les acteurs libanais voulaient la présence de la France. Le président Biden savait très bien aussi que la France a investi dans le dossier libanais, qu'avait beaucoup plus de proximité que les Américains avec les acteurs libanais. Voilà comment la France finalement a fait un retour. C'est un retour inespéré, c'est un retour qui a été exigé par la partie importante, celle de Liban, et aussi qui obéit à la place et à l'influence de la France au Liban.
Des propos recueillis par Oriane Verdier, le Premier ministre libanais, qui a annoncé aujourd'hui que son armée allait renforcer son déploiement dans le sud du pays à la frontière d'Israël. Najib Mikati, qui a demandé à Israël de respecter le cessez-le-feu et de se retirer de ces zones. RFI 22h04 à Paris et à Strasbourg, où Ursula von der Leyen a eu chaud. La dirigeante allemande a bien été reconduite pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Mais ce, après des mois de bisbilles avec le Parlement européen, malgré de fortes turbulences donc. Les eurodéputés ont bien validé les 26 nouveaux commissaires, mais cette nouvelle commission n'a été approuvée que par 370 voix, pile la moitié, puisque le Parlement compte 720 députés. Il y a 5 ans, lors de la première élection, Ursula von der Leyen avait obtenu 100 voix de plus. Compte rendu à Strasbourg de notre envoyé spécial Daniel Valo.
We now move to the vote on the election of the commission and it is adopted. Congratulations.
Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a beau féliciter Ursula von der Leyen, la nouvelle commission est investie avec moins de 400 voix du jamais vu dans l'histoire du Parlement de Strasbourg. Un résultat mitigé, mais l'essentiel est ailleurs pour l'eurodéputé Renew Stéphanie Yvon-Courtin, qui a voté pour la nouvelle commission.
Il est vraiment temps maintenant d'agir et c'est pour ça que cet accord de coalition était nécessaire et c'était pour ça que c'était important aussi qu'on puisse valider ces commissaires. La maison brûle.
C'est au nom de la stabilité et de l'urgence face aux défis qui se posent à l'Europe que les groupes centristes et socialistes ont finalement accepté de donner leur feu vert. Et cela malgré le poste de vice-président accordé à Raffaele Fitto, membre des Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Une faute politique majeure aux yeux de l'insoumise Manon Aubry.
C'est le fruit de petits arrangements entre amis et d'une nouvelle alliance entre la droite et l'extrême droite qui est quand même inédit dans notre histoire. Aujourd'hui, c'est un jour triste.
À gauche du Parlement européen, on s'inquiète de cette brèche dans le cordon sanitaire et l'on accuse les conservateurs du PPE de vouloir pactiser avec l'extrême droite sur certains sujets et en particulier sur les questions environnementales. Daniel Valo, Strasbourg, RFI.
L'actualité en France, c'est la suite du procès des viols de Mazan à la cour criminelle d'Avignon. Place aux plaidoiries. Car les réquisitions se sont terminées ce mercredi. 51 hommes sont accusés d'avoir violé la victime Gisèle Pellico. Les avocats généraux ont demandé des peines allant de 4 à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans notamment contre le principal accusé, Dominique Pellico, qui a drogué, filmé et fait violer sa femme pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'avocate de Dominique Pellico a pris la parole. Tanita Fallet.
Pendant une heure, Maître Zavaro a essayé de faire voir l'humain derrière celui qu'elle l'appelle l'autre Dominique, comprendre le pervers derrière le bon époux. Bien malgré moi, je suis devenue l'avocate du diable, a-t-elle commencé. Derrière son pupitre, micro à la main, la voix ferme, malgré quelques hésitations, elle est revenue sur l'enfance traumatisante de son client, le viol qu'il a subi. On ne naît pas pervers, on le devient, reprend-elle à un expert venu à la barre il y a quelques semaines. Sur la défense des autres accusés, ceux qui disent que Dominique Pellico les a manipulés, pensez-vous que l'on puisse être sous emprise en 10 minutes ? Sur ceux qui affirment ne pas avoir eu l'intention de violer Gisèle Pellico, elle se questionne. Dominique Pellico est-il responsable de l'état d'esprit des uns et des autres? Non. En guise de conclusion, elle se tourne vers Gisèle Pellico. Aurais-je le droit d'être pardonnée? On pourra, je l'espère, reparler de tout ça, les derniers mots de Dominique Pellico à son ex-épouse, par la voix de son avocate. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Enfin, à Busan, en Corée du Sud, se prolonge un cycle de discussions et de négociations des Nations Unies sur le plastique, dans le but de réduire la production et de réduire les déchets plastiques. Des militants sont aussi présents à ce sommet pour faire bouger les lignes, notamment une jeune fille indonésienne de 17 ans qui fait sensation, déjà surnommée la Greta Thunberg des pays en développement. L'Indonésie largement victime de la pollution plastique, notre correspondant en Corée du Sud, Celio Fioretti, l'a rencontré.
Eshnina Azara Akilani, 17 ans, est venue tout droit d'Indonésie jusqu'à Busan pour alerter sur la situation de son pays et des autres en voie de développement. Son engagement pour l'écologie vient de sa propre expérience depuis l'enfance, comme elle nous le raconte.
Quand j'étais petite, j'étais très proche de la nature et j'aimais bien faire du bateau sur la rivière. La rivière est très polluée. Beaucoup d'usines rejettent leurs eaux usées dans la rivière. Les gens y jettent leurs déchets, leurs couches, leurs sacs plastiques. Ça me brise le cœur.
Dans une lettre rédigée aux délégations invitées à Busan, elle dénonce la pollution dont les pays en développement sont victimes à cause des pays riches.
Beaucoup de déchets plastiques des pays développés sont envoyés dans mon pays pour être recyclés. Mais je peux voir par moi-même que le recyclage dans mon pays est horrible. Le plastique est coupé en petits morceaux, ce qui fait des microplastiques qui polluent évidemment nos rivières. Il est aussi brûlé, ce qui contamine notre air et la santé des enfants en Indonésie. Donc je veux qu'ils arrêtent d'envoyer leurs déchets ici et qu'ils les recyclent chez eux.
Le gouvernement indonésien a annoncé le mois dernier la fin des importations de déchets plastiques en 2025. C'est Celio Fioretti, Busan, RFI.
Et un mot de football, Liverpool qui ouvre le score à l'instant contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le foot et la Ligue des Champions, vous retrouvez tout de suite avec Annie Gasnier pour Radio Foot International. Excellente soirée à tous, à l'écoute des RFI.